Nous continuons avec notre étude de Luc. On est rendu encore au chapitre 1 des courses. Là, il y a une dame qui m'a dit, est-ce que vous êtes prêt pour Noël? J'ai dit, waouh, il faut être prêt pour Noël maintenant. Et vous, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Avez-vous déjà préparé vos tortillères, dépendant d'où vous venez? Là, des fois, vous avez des habitudes pour préparer, pour recevoir la famille. Mais je vous dis, ne perdons pas le focus de la fête de Noël pour nous, les chrétiens. Il y a quelqu'un qui raconte qu'une petite fille, après Noël, il y a son oncle qui arrive à la maison et lui dit, et puis, je vais dire, mettons, n'importe quel nom, Rachel. Puis Rachel, t'as eu tout ce que tu voulais ce Noël? Puis la fille a dit, pas tout à fait. Mais de toute façon, c'est pas ma fête, c'est la fête de Jésus. Oh, yeah, yeah. C'est un bon exemple, là. Parce que des fois, on pense beaucoup aux cadeaux. Il y a les cadeaux. Moi, j'aime beaucoup Noël. OK? J'aime beaucoup passer du temps avec la famille. Un Noël, c'est à Ottawa. Un Noël, c'est ici. C'est bien. On s'est séparés, les fêtes. Et puis, j'arrive et j'aime beaucoup. Des fois, on dit, oh, Noël s'en vient. Mais, des fois, on dit, oh, Noël s'en vient, parce que ça coûte cher. Des fois, il y en a qui disent qu'il faut partir dans le sud parce que ça coûte moins cher que les cadeaux. Donc, mais c'est beau, les cadeaux. Donc, juste peut-être cette année, et s'il y a beaucoup d'enfants, moi, j'ai une grosse famille, et pensez peut-être 5 $ par cadeau, un cadeau symbolique, mais... N'oublions pas, frères et sœurs, le focus, le but de cette célébration, nous, comme chrétiens. Vraiment, la petite fille a dit, oui, c'est Jésus, c'est la fête à Jésus, c'est vrai. Nous fêtons comme chrétiens le Sauveur, Jésus, qui est né, qui nous a donné ses cadeaux. C'est la grâce de Dieu, par grâce, ces cadeaux de Dieu donnés par grâce. Donc, fêtons Noël. Avec famille, soyons prêts pour recevoir peut-être nos familles. Mais ne perdons pas le focus de Noël. Jacques 1, 16, 17 dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés et mes sœurs bien-aimées. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient de où? Vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Et c'est ce cadeau, ce précieux cadeau qui est venu du ciel pour se donner pour nous, par pure grâce. Prions. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce Seigneur, en ces jours-là qu'on célèbre, qu'on chante Noël déjà. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, qui s'est répandue sur nous tous, tout ce que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ comme notre Sauveur, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton sang versé sur la croix, Seigneur. Et merci parce que on a cette espérance qu'un jour on sera réunis avec toi parce que tu as ressuscité. Ces dimanches-là, on célèbre tous ensemble ta résurrection, Seigneur, sachant que tu vis et tu règnes aussi. Et Seigneur, un jour, on sera réunis avec toi, Seigneur. En attendant, aide-nous, Seigneur, à pouvoir persévérer dans notre vie ici sur terre, sachant que nous vivons ici de façon passagère, Seigneur. Et notre cité, notre pays est dans les cieux, Seigneur. C'est pas terrestre, c'est céleste, Seigneur. Merci encore pour cette espérance. Nous te demandons, nous te prions, tout ça au nom de Jésus. Amen. Donc, rentrons tout de suite à notre texte. L'annonce, ce texte-là, on va le résumer en 3 parties. C'est en fait, là, vous connaissez très bien le texte, on n'ira pas lire, c'est à peu près 30 versets, du 26 à 56. Donc, on va voir l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, OK, par l'ange. On continue encore, l'ange Gabriel, il revient. Il annonce la naissance de Jésus-Christ à qui? À Marie, cette fois-ci dans cet évangile-là. On va voir de façon détaillée qu'est-ce que ça comprend, cette annonce-là. La visite de Marie à Élisabeth, dans cet évangile-là, on a beaucoup d'informations sur cette visite qu'on ne trouve pas dans d'autres évangiles. Et aussi le Cantique des Maries. Le Cantique des Maries qui est si connu. Et donc, ces trois parties, on va le voir en détail. Mais premièrement, je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le passage de Luc 1, du 26 à 56. Si vous avez tous Luc 1, 26 à 56, vos téléphones, vos Bibles. Et on va lire progressivement encore, cette fois-ci, et avec la lecture de tout ce qui contient ce passage-là. Annonce de la naissance de Jésus, 26 à 38. Et d'ailleurs, on va lire la présentation de l'ange, du 26 à 30, le verset 26 à 30. On va lire tout de suite 26 à 30. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, dès la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et il dit, elle dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Il entra chez elle et dit, je te salue, à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ça, c'est la salutation. On va arrêter là, dans le verset 28. Ça, c'est la salutation que l'ange Gabriel, encore une fois, on a vu la semaine passée, qu'il annonce la naissance de qui? De Jean-Baptiste. Et cette fois-ci, à qui avait annoncé? À Élisabeth? Non, à Zacharie. Il avait annoncé à son père. Cette fois-ci, c'est qui? C'est à la maman qui annonce, à Marie, la naissance de Jésus-Christ. Et la naissance de cet enfant qui vient. Et Nazareth, c'est une ville de Galilée. C'est une ville où demeuraient Joseph et Marie. D'ailleurs, c'est la ville où le Seigneur Jésus a vécu la plupart de son enfance, même de sa vie. Et on peut voir ça dans Matthieu aussi et dans Marc qui en parle de cette ville-là. De nos jours, il existe encore cette ville-là. De Nazareth. Elle est située à environ à 140 kilomètres de Jérusalem. C'est quand même peut-être 2 heures de Jérusalem. C'est quand même au nord de Jérusalem. Mais c'est quand même long comme chemin, 140. Pour le temps, pendant ce temps-là, au temps de Jésus, 140 kilomètres, ça se faisait, je sais pas dans combien de temps, là, mais c'était selon le voyage. Quelques jours, peut-être. Il n'y a aucune mention de cette ville dans le Nouveau Testament de Nazareth. Le verset 27 dit, Marie était une vierge fiancée. Et dans l'évangile parallèle, aussi dans Matthieu 1, 23, est écrit aussi le mot vierge. Et le terme utilisé vraiment d'une femme qui n'a pas connu d'homme, qui n'a pas eu relation intime avec un homme. Et Matthieu cite la prophétie d'Ésaïe dans le chapitre 7. Verset 14 du prophète Ésaïe, je vais le lire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est un signe qui donne le Seigneur, il dit, voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, c'est une jeune fille. Dans l'Ancien Testament, c'est pas écrit vierge. Mais le mot, ça voulait dire ça dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, hein, en fait. Le terme utilisé désigne une jeune fille d'une âge pouvoir se marier. Et de toute façon, frères et sœurs, dans la culture israélite, tous les jeunes filles étaient censées d'être vierges. Donc, on pouvait écrire ces jeunes filles. Et d'ailleurs, Matthieu le traduit dans ce temps-là comme une vierge. Marie était aussi fiancée à Joseph, mais leur mariage n'avait pas encore eu lieu. Et dans la culture juive encore, les fiançailles pourraient durer approximativement 1 an. C'était long, hein? Après que le futur mari ait payé la dot, il y avait une dot dans le temps, et puis ça durait à peu près 1 an. Mais c'était considéré comme un lien légal. Juste le divorce ou le décès pouvait rompre cet arrangement. Donc, c'était sérieux. Marie était attachée à Joseph. D'ailleurs, il est mentionné aussi dans ce verset-là. Joseph était de la maison de David, comme on le voit. et dont descendant de David. On peut voir ça dans Luc, Luc 3, avec la généalogie qu'on va le voir plus tard aussi, cette généalogie qui monte jusqu'à Fils des Dieux qu'on lit. Et dans le recensement aussi, on voit que Joseph et Marie montent pour se faire recenser. Donc, tous les deux étaient de la tribu de la maison de David, de Judas en fait. Mais voyons dans le verset 28 la salutation de l'ange. La salutation de l'ange, on peut le traduire par « sois heureuse » ou « à toi à qui une faveur a été faite, à toi à qui une grâce a été faite ». On pourrait dire aussi « toi qui es gracié », qui est l'objet de la grâce, de la faveur de Dieu. Il n'est pas dit qu'elle était pleine de grâce, ou une source de grâce, comme d'autres pensent, une pleine de grâce, comme en disant qu'elle peut donner la grâce à tous. Vous voyez de quoi je parle. On a été peut-être plusieurs entre nous, on a grandi dans le catholicisme. Là, on voit Marie comme celle qui donne la grâce, une source de grâce. Mais le verset, il dit pleine de grâce, à qui une grâce a été donnée. Simplement, c'est une bénéficiaire de la grâce de Dieu. La phrase « Le Seigneur est avec toi » confirme que cette grâce de Dieu était avec elle. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, en fait. Verset 29, « Troublée », parce que, imaginez-vous, cette jeune fille, parce qu'on pense que c'était une jeune fille aussi, avec le verset d'Ésaïe, était troublée par cette parole-là. L'ange se présente devant elle, et elle s'est demandé, et le verset 29, on dit, troublée par cette parole, elle s'est demandé ce que signifiait une telle salutation. On est en train de lire le verset 29. Et l'ange lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Sois tranquille, sois sans crainte. La grâce de Dieu est avec toi. Je suis, et le Seigneur est avec toi. Mais quand même, elle est troublée. Elle dit, qu'est-ce qui arrive là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui signifie cette salutation? Je sais que ce texte-là est très connu pour nous, mais mettez-vous à la place de Marie à ce moment-là, et l'ange vient et lui annonce ça. Marie, troublée par cette salutation, se demande qu'est-ce qui signifie. L'ange la rassure et dit encore, sois sans crainte. Marie connaissait sûrement la loi et les prophètes en son temps. Et comment Dieu aussi avait agi avec son peuple dans le passé. Nous voyons que, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Zacharie et Élisabeth étaient des justes, des gens pieux qui cherchaient Dieu. Marie, on voit aussi qu'elle était une fille pieuse qui cherchait Dieu et qui connaissait sûrement ces histoires-là. Elle avait déjà entendu, je ne sais pas, et on va voir tantôt, son cantique est comparé à celle d'Anne. Donc, des choses, et même les psaumes se chantaient dans ce temps-là. Donc, le langage était connu, ce langage-là, et par rapport aux Écritures. Et l'ange lui dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Sûrement, elle connaissait l'histoire de Noé, pensez-vous? Oui. Dans Genèse 6, 8, cette phrase-là, il dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » C'est écrit. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse aussi, dans Exode 30, 17, on l'a vu plusieurs fois, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée quand Moïse lui demande d'aller avec lui, que Dieu aille avec lui. » Et tu as prononcé, car tu as obtenu ma faveur, car tu as obtenu ma grâce. Dieu dit ça à Moïse, donc ce langage-là était connu. Elle peut-être se rappelle de ce langage-là qui parle l'ange. Et Dieu, l'ange veut la rassurer pour lui dire le message. Quel message il vient apporter à Marie. On va voir ça du verset 31 à 33, s'il vous plaît, toujours dans Luc. 1, 31 à 33, le message de l'ange, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom quoi? Jésus. Toute une nouvelle pour Marie. J'ai dit, tantôt, mettez-vous à sa place. Waouh, tu vas devenir enceinte. tu deviendras enceinte. Elle n'était pas encore mariée, elle était quoi? Fiancée. Et tu appelleras son nom en plus qu'il me dit, moi je vais devenir enceinte, en plus il me dit le nom de l'enfant que je vais avoir. Et il dit, tu sais, son nom sera Jésus. En hébreu, ça veut dire Joshua, qui signifie sauveur. On peut voir plus tard dans l'évangile selon Luc aussi, dans le chapitre 19, que Jésus même, il dit, car, en parlant de lui-même, de Jésus, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est Jésus, le sauveur. Je ne sais pas si Marie avait déjà tout compris l'ampleur de ce message que l'ange était en train de lui dire, mais je pense que ça a rentré peu à peu cette bonne nouvelle, en fait. Et le message de l'ange continue, 32 à 33. Il continue en plus, et c'est de façon progressive. Qui va être cet enfant-là? Il sera grand, appelé Fils du Très-Haut. Aïe, 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 c'est gros comme nouvelle. Il sera grand, appelé Fils du Très-Haut. D'ailleurs, du Très-Haut, c'est particulier à Luc, il prononce environ 7 fois dans tout l'évangile, le Fils du Très-Haut. Et les autres évangiles, Marc, je pense qu'il prononce cette expression 2 fois, Matthieu 1 fois. Donc c'est particulier à Luc, le Fils du Très-Haut, le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? À vous, oui. Peut-être à Marie même aussi. Ces versets 32 et 33 et pointent vers la prophétie d'Ésaïe et la promesse aussi faite à David. Si on peut lire, moi je vais lire ici tout de suite dans le passage, mais on peut lire ça dans Ésaïe, chapitre 9, de 5 à 6, versets 5 à 6, et aussi dans 2 Samuel 7, 12 à 16. Et vous allez voir, c'est que l'ange annonce à Marie, c'était déjà connu pour les gens qui attendaient ce Messie-là. Car un enfant nous est né, vous connaissez bien ça, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà, ce sera le zèle de l'Éternel, ce qui fera le zèle de l'Éternel. Je résume, en fait, ces versets-là. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David. C'est Ésaïe qui dit ça. Et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant, toujours. Encore un royaume éternel. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe. Dans 2 Samuel, vous connaissez très bien la promesse de 2 Samuel du roi David. Quand tes jours seront accomplis et tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. J'affirmerai ton règne, il dit, pour toujours ton trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. Il est en train de parler de Salomon. Mais on peut penser aussi à Jésus-Christ dans ces paroles-là. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ton règne seront toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Je pense que si Marie avait lu quelque part ces deux passages-là, et je pense que Ésaïe, c'était par excellence un prophète que les Juifs lisaient dans les synagogues, donc je pense que ce passage n'était pas inconnu pour Marie. Ce que l'ange vient d'annoncer répond aux attentes messianiques, en fait, d'Israël. Non seulement Dieu lui annonce qu'elle sera enceinte, mais que son fils sera quoi? Appelé le Fils du Très-Haut. Et qu'il sera roi. Ce Messie tant entendu, Marie pose la question après cette nouvelle à l'ange. Ce fils sera un roi. Le roi, en fait, Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Quelqu'un a dit à la radio, dans une radio chrétienne, il dit, plusieurs enfants ont devenu rois. C'est vrai, dans l'histoire, plusieurs enfants sont devenus des grands rois même. Mais j'aimais la phrase qui dit, mais un seul roi est devenu enfant. Et c'est vraiment Dieu qui s'est fait enfant. Et là, on est en train de voir vraiment cette annonce à Marie. On continue dans le verset 29 à 30. Troublé par cette parole, elle s'est demandé que signifie. Non, pardon. 34, pardon. Marie pose la question à l'ange. Mais comment cela se produira, dit le verset 34, puisque je ne connais pas d'homme. Est-ce qu'elle ne connaissait pas aucun homme? Il était en train de parler de ça. Je ne connais personne. Non, je ne connais pas d'homme. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore eu une relation intime avec un homme. En posant la question, comment ça se fera-t-il? Marie exprime son étonnement et son doute aussi, peut-être. Comment ça va arriver? Comment pouvait-elle porter un enfant dans son sein alors qu'il n'avait pas encore connu un homme, n'avait pas encore été marié? Quoique fiancé à Joseph, et peut-être quand l'ange lui annonçait ça, ah oui, c'est sûr, je suis fiancé à Joseph, donc à un moment donné dans ma vie, je vais avoir des enfants, donc c'est normal que l'ange me dise ça, tu vas être enceinte. Mais ce n'est pas ça qu'on comprend dans le texte. C'est vraiment les paroles de l'ange qui lui annonce ça va s'accomplir immédiatement. Et donc, Marie se pose la question, comment ça va arriver ça? Et l'ange, dans le verset 35, lui répond, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi, à cause du Saint-Esprit, à cause de la puissance du Très-Haut, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera quoi? Appelé Fils de Dieu. Tantôt, on a vu, Fils du Très-Haut, maintenant, sera appelé Fils de Dieu. La puissance de Dieu est venue sur Marie pour accomplir ses desseins. Son plan. De la même manière que c'est venu la première fois à l'Église, le Saint-Esprit est venu sur l'Église. La puissance du Saint-Esprit. Couvrir de son ombre semble aussi un peu avoir parlé de l'Ancien Testament, vous vous rappelez? Durant la marche du désert, laquelle symbolisait la présence de Dieu, la nuée sur le peuple. Le même terme en grec se réfère à la présence de Dieu couvrant d'un ombre les apôtres sur la montagne et la transfiguration. C'est ce même terme-là qui est utilisé. Le Saint-Esprit te couvrira. C'est la même expression qu'on utilise quand il y a eu la transfiguration sur la montagne. En fait, ce terme-là indique la présence et la puissance personnelle de Dieu. Et c'est ce qui est annoncé à Marie. Ces mots, et c'est pourquoi, dans le verset encore 35, expriment la grande conséquence de l'action divine du Saint-Esprit qui vient d'être annoncée. Le Saint-Enfant, ou l'être saint, on peut dire aussi, le Sauveur devait être affranchi du péché hérité de la race humaine. C'est pour ça qu'il viendra du Saint-Esprit. Il fallait que cet enfant puisse naître du Saint-Esprit. Et pour cette raison, il sera appelé Fils de Dieu. L'ange lui dit, il sera appelé Fils de Dieu. Pas le Fils de Joseph, le Fils de Dieu. Oui, il était connu dans le temps, le Fils de Joseph. Mais à la fin, Jésus s'est révélé comme le Fils de Dieu. Nous avons dans ces paroles une importance sur l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Le Fils de Marie sera Dieu manifesté en chair. Aucune explication humaine ne peut percer le mystère de ce que recèlent ces paroles, de ce qui est écrit dans ces paroles-là. On ne peut pas expliquer, mais Dieu est venu avec la puissance du Saint-Esprit sur Marie pour que le Fils de Dieu puisse voir le jour, puisse venir. Et l'ange, pour la réconforter, dans le verset 36 à 37, il dit, voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile, et dans son quoi? Sixième mois, donc 6 mois après, l'ange annonce cette bonne nouvelle à Marie. Car rien est impossible à Dieu. C'est un peu des paroles pour rassurer Marie avec cette nouvelle. 6 mois se sont passés. Comment Marie ne s'est pas rendue compte que sa parente était enceinte? Parce que c'était sa parente. Des fois, on dit que c'était sa cousine, c'était sa tante. On ne voit pas dans l'Écriture qui est écrit ce soit sa cousine ou sa tante. C'est juste sa parente. Il y avait un lien. Et se sont écoulés 6 mois de cette annonce-là. D'ailleurs, on a vu que, dans le texte de la semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui est arrivé avec Élisabeth? Elle s'est cachée pendant 5 mois. Donc, un mois après est venue cette annonce-là. C'est peut-être normal que Marie l'a pas su. Peut-être, je ne sais pas quelle relation avait avec Élisabeth. Mais cette nouvelle de la grossesse d'Élisabeth est donnée à Marie comme un encouragement à croire ce qui est annoncé. Parce qu'il n'y, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, en fait, il y a un psaume qui dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Et rien n'est impossible pour lui. Il vient de donner un fils à Zacharie et Élisabeth, même si les deux y avaient abandonné cet espoir d'avoir un enfant. Et par conséquent, il peut également remplir la promesse faite à Marie, sans aucune aide de Joseph. Il pouvait accomplir cette nouvelle. C'est quand même curieux là, que l'ange, il y a 6 mois, annonce à Élisabeth et à Zacharie comme quoi ils allaient avoir un enfant. Ça fait longtemps qu'ils priaient pour ça, qu'ils voulaient avoir cet enfant. Et dans l'âge avancé, Dieu a permis que Élisabeth tombe enceinte. Il aurait pu faire ça dans une famille pieuse aussi, en Galilée, à Nazareth, mais il a choisi Marie. Et Marie ne priait pas pour un enfant. Et Marie ne s'attendait pas, même avoir un enfant, elle vivait pas avec Joseph. Quoique c'est une bénédiction déjà, c'est une grâce déjà, savoir même dans le temps, même avant de te marier, que tu vas voir un enfant. C'est déjà une grâce. C'est pour ça que l'ange dit, une grâce a été faite aussi. Lisons encore verset 38. Marie dit, voici la servante du Seigneur. On voit ici la réponse de Marie à tout ce qui vient d'être dit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange s'éloigna d'elle. Marie, quoi? Se soumet. On voit vraiment son caractère de soumission volontairement au plan de Dieu. En se disant, sa servante, elle veut dire ça. Le mot un peu traduit par esclave. Ton esclave, ta servante. Cette réponse vraiment témoigne d'une grande foi et d'une consécration totale à la volonté de Dieu. Quelles que soient les conséquences, parce que Marie pourrait avoir des conséquences. Elle allait tomber enceinte avant de vivre avec son mari. Dans l'évangile de Luc, selon Luc, on ne voit pas l'annonce que l'ange fait à Joseph, qui dit, ne crains pas de prendre ta mari par femme, parce que l'enfant qu'il va voir vient du Saint-Esprit. C'est pas écrit ici dans Luc. D'ailleurs, Marie ne le savait pas encore, mais elle s'est pliée à la volonté de Dieu. Elle dit que ce soit fait selon ta parole. Je vais vivre les conséquences de tout ça. Par la foi, elle accepte cette grâce de Dieu. C'est un bon exemple de piété, c'est un bon exemple de soumission à Dieu, de conviction à Dieu aussi. Elle croit que non seulement elle va avoir un enfant, mais elle croit aussi qui va être cet enfant-là. Et Marie, on va voir la visite de Marie à Élisabeth, du 39 au 45, s'il vous plaît, encore le chapitre 1. En ces jours-là, Marie s'éleva et s'empressa d'aller vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, quoi, tressaillit dans son sein, ou dans son ventre. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, du Spirit-Saint. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car, voici aussitôt que la voix à ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. » C'est un beau témoignage là d'Élisabeth envers Marie. remplie du Saint-Esprit, Élisabeth salue Marie, la bénit entre toutes les femmes. D'ailleurs, c'est un, je pense que c'est une prière des catholiques, là. Par cœur, je pense qu'il prononce ces mots-là, la prière à Marie. Mais Élisabeth la bénit entre tout, parmi toutes les femmes. Aucune femme est pareille comme elle, à cause de ce qu'elle elle porte dans son ventre. Et en plus, elle dit, c'est lui qui sera sauveur du monde. Elle l'appelle mon Seigneur, comme David s'exprimait du Messie dans plusieurs psaumes. D'ailleurs, le psaume 110, elle l'appelle mon Seigneur. Comment ça se fait qu'elle est la mère de mon Seigneur? Waouh! Toute une déclaration d'Élisabeth. L'enfant n'était pas encore né. Elle dit, c'est la mère de mon Seigneur. Et vraiment le dit à cause de l'enfant qu'elle porte. D'ailleurs, dans le chapitre 20, plus tard dans cet évangile-là, Jésus, dans une des conversations avec les scribes, mentionne, il leur pose la question. Jésus leur dit, comment peut-on dire que le Christ, là il parle du Messie, Jésus est en train de parler du Messie, comment peut-on dire que le Christ est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des psaumes, là et Jésus cite un psaume, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et David donc l'appelait Seigneur. Comment il est son fils? Jésus même, il pose la question au scribe. Donc on voit ce langage-là d'Élisabeth, la mère de mon Seigneur. C'est la même expression que dans les psaumes. Et Élisabeth termine avec ces paroles. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement. En fait, heureuse, bienheureuse celle qui a cru à ce que l'ange vient de dire à Marie. Béni sois-tu, si on peut changer les mots. Bienheureuse, toi qui as cru à ce que le Seigneur va accomplir bientôt. En fait, frères et sœurs, Marie crut une chose qui n'était jamais auparavant arrivée. C'est la conception, il n'arrivera jamais non plus, la conception sans l'intervention d'un père humain s'est produit maintenant. La conception d'une vierge, l'espoir de tous les âges arrive à son accomplissement. Dans ses phrases initiales, dans la matrice d'une humble vierge juive, Marie. Et c'est après de ce témoignage qui vient ce qu'on connaît souvent, le chant de Marie, là où Marie éclate en louange. Et vous allons voir ça du verset 46 à 55, s'il vous plaît. Encore dans le chapitre. C'est facile aujourd'hui. On reste toujours dans un chapitre là, en 46 à 55. Tout un chant, celle de Marie. Dans ce chant, on ne voit pas non plus. Et Marie fut remplie du Saint-Esprit, non? Comme Élisabeth, on peut le voir aussi. Simplement, Marie exprime sa joie. D'ailleurs, le langage, plusieurs fois, ils l'ont comparé aussi à la prière de Anne aussi. D'ailleurs, c'est un cœur qui sévit devant Dieu. Et ce qu'il mentionne Marie, c'est un langage courant, là. Je pense, comme j'ai dit tantôt, elle connaissait sûrement les psaumes. Elle connaissait sûrement ce que Dieu avait fait dans le passé. Et ce langage-là, vous allez pouvoir le voir. Des fois, on peut se situer dans l'Exode, on peut se situer dans certaines faces de l'histoire d'Israël. C'est cette grande histoire du salut que Dieu maintenant accomplit dans cet enfant-là et dans cette annonce à Marie. Lisons, s'il vous plaît, du 46 à 55. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Voilà le mot, « mon Sauveur » ici. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier des biens les affamés, renvoyer à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers qui? Abraham et à sa descendance pour toujours. C'est un magnifique chant, que d'ailleurs on l'appelle le Magnificat ou le Magnificat, je ne sais pas comment on prononce en français, c'est peut-être le Magnificat, à cause du premier mot qu'on utilise dans la version Vulgate, c'est-à-dire la version en latin à laquelle a été traduite dans le premier siècle, mais pour l'Église catholique, la Vulgate en latin. Ces chants-là commencent par les mots « Mon âme magnifie le Seigneur », ce qui traduit en fait la version de Darby aussi, la Bible de Darby, il traduit « Mon âme magnifie le Seigneur ». Ça ressemble un peu au mot qui commence en latin, « magnifie ». Je ne sais pas comment on prononce en latin, donc, mais c'est, le mot est là. Le premier, c'est pour ça qu'on l'appelle le Magnificat. Ça a été un chant qui a inspiré plusieurs, même, je pense que plusieurs très connus auteurs y ont fait de ce chant-là, des grands chants, des chorales même, sur ces paroles-là qui vient de prononcer Marie. Mais si on voit rapidement ces neuf versets, Marie réagit à la salutation d'Élisabeth avec un cantique pour louer Dieu de la grâce qui lui a été faite à cette humble servante. Elle exprime aussi la reconnaissance parce que Dieu a toujours élevé les humbles et abaissé les orgueilleux. Ça, c'est un langage qu'on connaît aussi dans les proverbes. Ce cantique est constitué des allusions aux citations de l'Ancien Testament aussi. Marie s'est considérée comme partie intégrante du reste pieux d'Israël qui servait l'Éternel. Il y avait un reste dans Israël. On peut voir dans Luc aussi qui sort Siméon. On va pouvoir lire le témoignage de Siméon. Le cantique même de Siméon. Anne aussi, qui est restée pendant des années dans le temple. C'est reste-là qui attendait le Messie, des bons cœurs. Même les disciples, on a trouvé le Messie. André dit dans Jean, nous avons trouvé le Messie. Elle appela Dieu à la fois mon Seigneur, mon Sauveur, associant son intimité avec lui. Elle célèbre aussi sa fidélité, sa puissance, sa sainteté, sa miséricorde aussi. Ensuite, elle le loue pour la grâce particulière qu'il a faite à Israël. Par l'enfant qu'elle portait, Dieu accomplissait toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham, à tous les patriarches et à la nation tout entière par l'intermédiaire des prophètes de l'Ancien Testament. En fait, c'est une grande nouvelle, celle-là, que l'ange prononce à Marie. Le verset 56 dit que Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Luc ne dit pas qu'elle est restée pour l'accouchage de la naissance de comment il s'appelle, de Jean-Baptiste, là. Mais 3 mois, si vous êtes bon en mathématiques, 6 plus 3, 9. Donc peut-être elle est restée pour la naissance de Jean-Baptiste. Mais elle est restée peut-être pour l'aider aussi, environ 3 mois. Mais ces passages, mes frères et sœurs, viennent de parcourir dans cet évangile-là, qu'on vient de parcourir, témoignent de la grâce de Dieu. 2 versets clés dans ces passages-là. Je vais juste résumer qu'est-ce que ces passages parlent pour nous maintenant, l'Église. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. C'est au début, on le voit ça au début du passage-là. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 3 aspects de cette grâce. Une grâce qui a été faite, une grâce qui vient de Dieu. D'ailleurs, le passage vient et Dieu envoya qui? Gabriel. Tout vient de Dieu, en fait. Et cette grâce-là vient de Dieu, une grâce faite à Marie. Une grâce aussi qui est reçue par Marie. Elle reçoit cette grâce-là, cette bonne nouvelle. Puis une grâce aussi proclamée. Où est-ce qu'on voit cette grâce proclamée? Dans le chant qu'on vient de voir. Ce chant qui éclate en louange à Dieu. En ce qui concerne ce passage-là, cette grâce manifeste la nouvelle de l'annonce à Marie. Toute une nouvelle, non seulement pour Marie, frères et sœurs, pour toute l'humanité, la venue de Jésus dans le monde. L'apôtre Paul dit en Galates, « Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Lorsque le temps de Dieu fut accompli, c'est Paul qui dit ça dans Galates, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Cette bonne nouvelle concerne Jésus, écrit aussi par Paul dans Romains, cet évangile, quand il parle de la bonne nouvelle, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et il concerne qui? Il concerne son Fils né de la descendance de David selon la chair, selon la chair. Romains 8:3 dit « Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. » Encore un autre témoignage. Cette bonne nouvelle aussi. Et Dieu fait chair. Vous connaissez très bien le passage de Jean 1:14. La parole a été faite quoi? Chair. Et l'habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite chair. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Car par grâce, en effet, vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi, vous voyez, la foi, croire et coller à la grâce. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don, le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En fait, c'est la grâce de croire en lui. Et c'est là de la part de Dieu, dit Philippiens 1:29. Car il vous a été fait de la grâce, non seulement de croire en Christ, sinon de, mais encore de souffrir. C'est une grâce que de croire en Jésus-Christ. La grâce de Dieu doit être proclamée et annoncée comme l'a fait aussi Marie. Vous avez reçu gratuitement quand le Seigneur envoie les disciples à évangéliser, à pouvoir partager cette bonne nouvelle, cette parole-là. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Paul, l'apôtre Paul dit dans Actes, je n'ai fait aucun cas de ma vie, comme s'il était précieuse pour moi, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Encore une fois, grand témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, en fait, frères et sœurs, nous pousse, non seulement à l'annoncer aussi, mais nous pousse à obéir à Dieu, à plaire. À lui plaire en attendant son retour. Et je vais finir avec ce verset dans Tite, 2, 11 à 13. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Tite 2, 11 à 13, s'il vous plaît. Tite 2, 11 à 13. La grâce nous pousse à lui plaire en attendant son retour. Verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans le cycle présent d'une manière quoi? Sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Waouh! Notre grand Dieu et Sauveur. Qui est lui? Qui est ce grand Dieu et Sauveur? Le Christ Jésus. Notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Dieu nous a fait grâce, frères et sœurs. Nous avons reçu cette grâce et nous avons cru à cette grâce. Proclamons et célébrons cette grâce. Amen. Yeah.
Bénis cette église, Seigneur. Protège chacun de tes enfants. Dirige-nous selon ta volonté cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Bon dimanche.